On accueille maintenant Jean au 39-21. Bonsoir Jean.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir, merci d'avoir patienté Jean. Vous
me permettre de m'exprimer aussi Olivier.
Je vous en prie, vous nous appelez d'où Jean ?
De Lille.
De Lille. Alors, racontez-moi ce qui vous amène.
Bon, je veux lancer un appel au secours parce que ma femme est séquestrée depuis bientôt 6 années. Ici, près de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, dans sa maison.
Elle est séquestrée par qui et comment et,
séquestrée par son tuteur qui profite qu'elle est handicapée. Elle a la sclérose en plaques. Elle ne sait pas faire avancer seule son fauteuil. Elle ne sait pas téléphoner. De toute façon, on a changé son numéro de téléphone. Le tuteur a mis aussi des clôtures autour de son jardin qu'elle ne puisse plus parler avec ses voisins. Elle n'a plus de vie et je n'en ai plus non plus.
Comment se fait-il, Jean, qu'aujourd'hui vous m'appeliez donc seul de votre nouvelle habitation et que vous ne soyez pas aux côtés de votre épouse ? Comment est-il possible qu'un tuteur ait pu puisse se séquestrer, comme vous le dites, votre femme et que vous ne soyez pas à ses côtés ?
J'avais les clés de ma femme depuis 2002. Nous étions en vie commune depuis 2002. Alors, on avait chacun notre maison à l'origine. On avait gardé chacun la possibilité de pouvoir retourner dans notre ancienne maison quand on en sentait le besoin.
Oui.
Donc, des fois, elle était chez moi, des fois, j'étais chez elle. C'est pour ça que je vous ai parlé de Lille et Villeneuve-d'Ascq.
Et comment se fait-il que vous ne puissiez plus la voir ? C'est ça qui est incompréhensible. On vous refuse l'accès à votre femme ?
Tout à fait. On n'est pas mariés, hein. On est concubins. Mais le tuteur prétend que nous ne sommes pas concubins et qu'elle ne veut pas me voir pour m'empêcher de la voir. Et ça pour des raisons financières.
Alors, pourquoi ? Parce que votre femme a une fortune personnelle qui a pu allumer l'intérêt de cette personne ?
Ma femme bénéficie de ce qu'on appelle la PCH, la prestation compensatoire du handicap,
oui.
Qui lui permet d'avoir une auxiliaire de vie à chaque heure de sa journée et de sa nuit. L'heure de PCH est payée par le département à 21 euros de l'heure,
oui.
Ce qui revient à 180 000 euros pour l'année. Le tuteur voulait confier ce marché juteux à un de ses amis.
Oui.
Donc, ça a entraîné la rupture et la mise à l'écart de moi-même, mais aussi des voisins, des amis, etc. etc.
Mais comment cet homme a pu vous mettre de côté comme ça, en fait, Jean ? Comment a-t-il pu ? Il vous a expulsé ? Il vous a mis dehors de force ? Comment ça s'est passé ? Racontez-moi.
Il a profité que j'étais absent un jour, il a changé la serrure. C'était le 14 janvier 2015. J'ai revu ma femme le 8 mars 2015 qui m'a donné les clés de la nouvelle serrure.
Oui.
Tout cela a été filmé, hein. On voit bien que ma femme est heureuse de me revoir parce que ça faisait 2 mois qu'on ne s'était pas vu et qu'elle est enchantée. Faut vous imaginer, c'est une femme handicapée en fauteuil roulant et on faisait tout ensemble depuis 18 ans.
Mais votre femme a un handicap qui lui permet tout de même de s'exprimer, de parler, de quoi souffre-t-elle ?
Moins aujourd'hui. La sclérose en plaques, ça a tendance à s'accroître avec les années.
Oui. Oui, vous m'avez dit qu'elle avait une sclérose en plaques, mais que ça lui a ôté à un moment l'usage de la parole pour que vous me disiez, elle était contente de me voir, elle vous a appelé au secours le jour où elle vous a vu, elle vous a expliqué dans quelles conditions elle était retenue aujourd'hui.
Elle me l'a expliqué le 8 mars. Le 8 mars, j'ai pu l'enregistrer. Ça, c'est une pièce maîtresse que n'a jamais voulu prendre en compte la justice. La justice qui n'a fait que reprendre le discours mensonger du tuteur.
Alors racontez-moi ça, parce que vous me dites que le 14 janvier donc 2015, vous partez de chez vous, et puis ce tuteur change les serrures, et vous ne pouvez plus rentrer dans la maison de votre femme, qui était un peu chez vous, hein, puisque vous étiez ensemble depuis 2002, donc je suppose que vous y aviez...
Mais aussi chez moi d'ailleurs.
Donc, bien évidemment, donc du coup... Vous portez plainte à ce moment-là? Vous vous défendez? Comment ça se passe? Expliquez-moi.
Alors, je vais porter plainte, oui. Pas seulement pour être empêché de voir ma compagne, mais aussi parce que je me suis rendu compte que le tuteur qui était en place avait vidé son assurance-vie en faisant ce qu'on appelle un abus de pouvoir. Donc, quand je porte plainte aussi
pour escroquerie,
dénoncer cet abus financier.
Ce tuteur, en fait, il est bien affilié à une administration, en tout cas, comment appelle-t-on la structure qui nomme ces tuteurs?
Il est mandataire judiciaire.
Mais il est profite... mandataire judiciaire, d'accord.
Il profite qu'il est président des mandataires judiciaires pour abuser un peu de son pouvoir.
Est-ce qu'un mandataire judiciaire dépend du procureur de Villeneuve-d'Ascq?
Il dépend d'abord du juge des tutelles, et si ça ne s'arrange pas avec le juge des tutelles, c'est le procureur. Donc bien sûr, je me suis tourné vers le juge des tutelles, j'ai fait ce qu'on appelle une requête pour revoir ma femme, surtout qu'il n'y avait aucune plainte contre moi. À ce moment-là, il a déposé des plaintes contre moi. J'ai été accusé de tout.
De quoi ?
J'ai été accusé de viol, par exemple. Je veux être très précis, là. Hein. On m'a accusé d'enlever la sonde urinaire de ma compagne tous les dimanches. Or, personne ne peut enlever une sonde urinaire sauf une infirmière ou une personne habilitée. C'est quelque chose de très délicat, c'est un long tuyau qu'on met dans l'urètre. Donc, tout de suite, un médecin qui connaissait ma femme a fait une attestation disant que c'était impossible que j'enlève la sonde urinaire. Donc, on m'a accusé avec des faits de cet ordre-là qui sont totalement faux. La chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu une enquête sur moi. On m'a accusé aussi de détournement d'argent. Et l'enquête a prouvé que je n'avais rien fait de mal. Et j'ai bénéficié d'un classement sans suite pour toutes les accusations portées contre moi. Il y a aussi des accusations de violence. Mmh. Les auxiliaires de vie qui ont témoigné que non, je n'avais jamais été violent. Mais pour me chasser de la maison de ma femme, il s'est mis comme ça à m'accuser. J'ai été blanchi par l'enquête du procureur, complètement, avec un classement sans suite. Et l'officier de police judiciaire, une femme remarquable, m'a dit qu'il était évident que ma femme était dans la peine de ne plus me voir. À tel point qu'elle a fait des grèves de la faim, à plusieurs reprises, en me réclamant, à 72 ans. C'est vous imaginez cela?
Oui, c'est alors, terrible.
Enfin aussi, pas seulement parce qu'elle ne me voyait plus, mais parce qu'elle était privée aussi de tous ses amis, qu'elle était privée de toutes ses sorties. Avant, elle sortait tous les jours, elle avait besoin de voir les arbres. C'est une femme très proche de la nature. Elle avait besoin de voir le ciel et les arbres, elle sortait tous les jours. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée enfermée pendant des années.
Jean,
elle est enfermée.
Jean. Vous savez que ces accusations de séquestration sont extrêmement lourdes et graves ce soir, et que vous prenez la responsabilité de donner assez de détails pour qu'on sache là-bas dans la région de Villeneuve-d'Ascq et de Lille de quel mandataire social vous parlez. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui la justice n'a pas tranché et que votre femme est toujours dans la même situation, et que malgré vos multiples demandes, et vous avez envoyé à Florian ce soir des articles de presse où on voit vos voisins, les amis de votre femme s'être réunis en un comité de soutien, comment expliquez-vous que cette situation ne bouge pas? Est-ce qu'il y a un complot organisée par des gens au sein du tribunal, au sein des mandataires de justice. Comment est-ce que vous expliquez ça, Jean ? Parce que ça fait maintenant un moment que ça dure, ça fait presque 7 ans.
En janvier, ça fera 6 ans. Il bénéficie de protection, c'est évident. Et ça, c'est scandaleux. Et c'est pour ça que j'appelle à l'aide aussi le nouveau ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti. Parce que ce que je dis est grave, comme vous l'avez dit, et je l'ai écrit aussi, puisque j'ai déposé à la fois une plainte auprès du procureur et une plainte avec constitution partie civile. Mmh. Auprès du doyen des chefs, auprès du doyen des juges d'instruction.
Hervé, qui est l'un de nos auditeurs et qui vient d'appeler au 3921, nous dit que à partir du moment où vous n'êtes pas marié ni paxé, la justice ne vous reconnaît nullement. Est-ce que c'est aussi l'un des points négatifs dans cette situation sur lequel ce tuteur s'appuie ?
Non. Même si on n'est pas marié, si on est concubin, on a le droit de vivre ensemble. C'est dans la charte de défense des personnes protégées.
D'accord. Que fait la famille de votre femme ? Est-ce qu'il y a de la famille encore autour d'elle ?
Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle a eu 2 sœurs qui ont eu un rôle plutôt négatif dans cette histoire.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ma femme n'était pas du tout proche de ses sœurs. Et donc ses sœurs... Si vous voulez, moi j'avais, je veux le dire franchement, hein, ce qui a servi à m'accuser, c'est que j'avais fait une assurance vie dont j'avais rendu ma femme bénéficiaire, ma femme, ma compagne, hein, vous comprenez ?
Oui.
Et elle a fait de même.
Quel est son prénom ? Quel est son prénom à votre femme ? En plus, ce serait bien qu'on l'appelle par son prénom. Quel est son prénom ?
Françoise.
Françoise, d'accord.
Donc les sœurs de Françoise n'ont pas du tout apprécié qu'elle fasse une assurance vie à mon bénéfice, comme je l'avais fait à son bénéfice. Donc, mais en plus qu'elle n'était pas proche, ça en a rajouté, si vous voulez.
Oui. Encore des histoires d'argent au cœur des familles qui mettent la suspicion.
C'est terrible.
C'est un grand classique. Mais revenons-en donc à ces conditions de séquestration. Aujourd'hui, vous dites que votre femme a été du jour au lendemain séparée de tous ses amis, de ses voisins, qu'elle n'a plus revu qui que ce soit ?
Oui, c'est complètement fou. On est en France, dans le pays des droits de l'homme. Et du jour au lendemain, on profite qu'une femme est handicapée et âgée pour la couper du monde. On l'a privée de tout. Elle n'a pas pu aller une seule fois à la messe. Elle allait 2 fois à la messe. Pour elle, c'était importante. Elle avait une communauté chrétienne. Et elle allait à la messe tout près de chez elle aussi. En fauteuil roulant, c'était 5 minutes. Elle allait au marché. Elle allait dans les parcs. Il y a des parcs près de chez elle. Elle allait à la mer. Elle allait au concert. C'est une grande mélomane. Elle était abonnée à l'Orchestre National de Lille de Jean-Claude Cadatsu, que je salue ici. Tout lui a été pris. Tout, y compris on ne s'est plus occupé de ses chats. On lui a tout pris. On lui a pris tout ce qui lui a apporté du bonheur. Alors, c'est pas étonnant, après qu'on la voit faire des grèves de la faim. J'ai des documents à ce sujet.
Et comment expliquez-vous que ça soit possible, Jean ? Comment vous avez bien une idée de qui a ce pouvoir pour faire ce genre de choses ? Parce que vous comprenez que ça peut paraître incroyable, ce que vous nous racontez.
Oui, alors le tuteur me disait, parce que la première chose qu'ils font quand c'est comme ça, ils passent de curatelle à tutelle. Il m'a dit très franchement, je peux dire ce que je veux, c'est toujours moi que l'on croira car je suis assermenté. C'est une des premières phrases qu'il m'a dites, avec un complet cynisme. Donc, il n'a pas hésité à mentir, sans arrêt, mentir à la juge, mentir au procureur.
Mais personne n'a demandé à entendre votre femme parmi tous ces gens-là, le procureur, je ne sais pas moi, la police.
Demandait à être auditionné. auditionné avec ma femme.
Oui.
Et on m'a toujours empêché d'être auditionné avec ma
femme.
C'est
dingue.
Il y a eu un juge d'instruction qui a été nommé il y a quelques mois. Mon avocate dépose une demande d'acte pour auditionner ma femme avec moi pour que la juge voit qu'il n'y a aucun problème entre ma femme et moi. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Et puis la juge refuse. Elle refuse sous prétexte d'ennui de santé. C'est le prétexte qui sort toujours de toute façon. Et donc ma femme et moi, la juge ne peut même pas juger, la juge d'instruction ne peut même pas juger sur la qualité de la relation entre ma femme et moi, puisqu'elle ne nous a pas auditionnés ensemble. Elle n'a pas donné son accord pour la requête de l'avocate.
Alors si j'ai bien compris, ce tuteur aujourd'hui, pour ce tuteur, votre femme représente un chiffre d'affaires hein, d'à peu près 180 000 euros par...
Pour l'ami de ce tuteur.
Oui, pour l'ami, mais je suppose que l'ami de ce tuteur redistribue un petit peu les dividendes à son copain. Parce que quel intérêt il aurait à faire ça, autre que prendre de l'autre côté. On parle de sans doute d'une histoire de corruption, en plus de séquestration.
Ce qui est certain, c'est que l'ancienne société d'auxiliaires de vie était très attachée. Toutes les auxiliaires de vie étaient très attachées à Françoise. Et Françoise était très attachée à toutes ses auxiliaires de vie. Elle les avait à l'époque 20 heures par jour.
Est-ce que ces auxiliaires de vie ont été entendus aussi par la police? Est-ce qu'à un moment, ces personnes-là ont eu l'occasion de dénoncer tout ça?
Dès qu'il est venu en place, le tuteur a chassé les anciennes auxiliaires de vie pour mettre la société de son copain à la place.
D'accord.
Et donc, l'ancienne société qui s'appelait Vitalliance a même reçu...
Évitez de dire des noms à l'antenne, je vous dis ça pour vous, mon cher Jean, afin que vous évitiez d'être poursuivi pour diffamation. Donc évitez de dire les noms des entreprises, d'accord?
Oui. Hein le tuteur a demandé à l'ancienne structure d'auxiliaire de vie de faire un rapport comme quoi j'étais dangereux. La directrice de l'ancienne société d'auxiliaire de vie a fait un écrit disant que elle n'a jamais vu que j'étais dangereux et que le tuteur avait fait pression sur elle pour un faux témoignage, donc.
J'ai vu que vous aviez mis la presse hein, au courant de tout ça. Il y a eu plusieurs articles qui ont relaté ces accusations de séquestration. Malgré ça, avec des photos, hein, j'ai vu tout à l'heure, Florian m'a montré une photo où vous êtes avec les amis de Françoise. Il y a du monde hein, sur la photo, avec les voisins. Ça ne bouge pas.
Non. Il y a des gens très puissants en France. Alors, ce qui est malheureux, c'est, si vous voulez, moi j'ai mon oncle qui faisait partie d'un réseau très sympathique, très humaniste et tout. C'est qu'on a des réseaux comme ça qui sont sympathiques, humanistes, puissants, et que de temps en temps, malheureusement, s'églisent des gens pour profiter du pouvoir. Et ils ont alors des relations, et ils font tout et n'importe quoi. Autrement dit, je demande à ce qu'il y ait une vérification des gens qui abusent des réseaux. Je ne suis pas contre les réseaux, on peut être en réseau, mais on ne doit pas, quand on est responsable de réseau, on ne doit pas donner sa couverture à n'importe qui.
Alors, écoutez, on va marquer une petite pause, car l'information revient pour le journal de la rédaction dans quelques secondes. Je ne saisis pas vraiment cette notion de réseau. Vous allez m'expliquer ça après l'info, d'accord? Jean, vous restez en ligne et puis on va continuer à ce que vous m'expliquez ça parce que je n'ai pas saisi, d'accord?
Oui, d'accord.
À tout de suite. Minuit passé de 6 minutes, vous êtes toujours sur Europe 1. C'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez bien évidemment continuer à composer le 39-21 pour peut-être pouvoir échanger avec nous ce soir et nous envoyer vos SMS au 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Comme cette auditrice ce soir qui malheureusement n'a pas signé son SMS, mais qui s'adresse à vous, Jean. Et elle vous conseille de lire une enquête que la journaliste Valérie Labrousse a menée sur ces abus tutélaires. Je suppose que ces réseaux dont vous parlez et qui visiblement sont dénoncés dans cette enquête et qui entourent les abus tutélaires et tout le business malsain autour de l'or gris, c'est ce qui est évoqué dans son livre qui s'appelle Les Dépossédés. C'est ce à quoi vous faites allusion, Jean ?
Oui, ce livre est très connu. Hein.
D'accord.
Il y a aussi un blog sur Mediapart, le blog de l'avocate Maître Canini.
D'accord. Alors, expliquez-moi, moi, parce que je ne suis absolument pas au courant. Alors, j'ai échangé avec Julien Pierce, là, sur, bien évidemment, les notaires. Il y a des notaires véreux, des avocats véreux. Il y a des tuteurs. Je suppose que tout ce qui a trait à l'argent suscite des convoitises et que malheureusement des gens placés professionnellement comme tous ces gens le sont, eh bien il y en a bien évidemment qui ne sont pas honnêtes, comme visiblement aujourd'hui vous en êtes la victime. Qu'est-ce que c'est que ces réseaux en fait ? Qu'appelez-vous réseau ?
Un réseau, c'est quand on se retrouve entre personnes qui ont un intérêt commun et c'est normal, on se retrouve entre enseignants, par exemple, moi je suis enseignant, on aime parler de nos disciplines, des choses comme ça. On peut se retrouver aussi entre juristes. Ce qui n'est pas normal, c'est d'utiliser un réseau pour détruire son prochain, pour profiter de son prochain. Il y en a qui sont dans des réseaux humanistes, des associations, pour défendre les droits de l'homme, par exemple, ou pour défendre la laïcité. Ils ont raison, ce sont des beaux idéaux. Mais à partir du moment où des gens vont dans les réseaux pour profiter du pouvoir du réseau, pour profiter des personnes qui sont dans le réseau et pour grimper les échelons du pouvoir ou pour s'enrichir, là, il y a un problème qui se pose.
D'accord. Vous comprenez ? D'accord.
Et malheureusement, un certain nombre de personnes fréquentent des réseaux souvent de pouvoir, pour leur intérêt personnel et pas pour servir leur prochain.
Donc, ce tuteur doit avoir commis d'autres faits ressemblant à ce qui vous arrive à vous et à Françoise aujourd'hui. Est-ce que vous êtes... Vous avez mis à jour des malversations comme celle-là sur d'autres familles, d'autres personnes ?
Non, je n'en ai pas connaissance, mais ça ne m'étonnerait pas.
Quel est votre recours aujourd'hui, pour conclure, Jean ? Aujourd'hui, quelle est votre position et que peut-il se passer, puisque visiblement... Le procureur a entendu parler de cette histoire, il y a eu beaucoup de gens qui ont été entendus. Et ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui peut se passer de plus maintenant ?
Je n'ai pas d'autre solution que d'en parler de plus en plus fort. Je ne peux pas laisser quand même ma femme avec la vie détruite dans l'état où on l'a mise, sans réagir. Je ne voudrais surtout pas que ma femme meure dans la tristesse et la solitude. Ce serait terrible. Et c'est à ça qu'on est en train de la condamner. On la tue à petit feu. Depuis plus de 5 ans.
Claude, au 39-21, l'un de nos auditeurs nous dit que le défenseur des droits peut être saisi et peut-être peut débloquer la situation. Avez-vous fait appel au défenseur des droits ?
Il faudrait qu'il ne fasse pas partie du réseau aussi.
Oui, mais ça se tente quand même.
Oui, j'ai tenté.
Vous êtes entouré, Jean, aujourd'hui. Ces amis, ces voisins dont vous parlez continuent d'être avec vous, de vous supporter, de vous aider ?
C'est une grande chance de voir qu'il y a des gens qui ont une conscience morale et qui ont l'amitié chevillée au corps, que ce soit pour moi ou pour Françoise. Ça, c'est une grande chance.
Alors, n'hésitez pas à leur communiquer notre groupe de parole Facebook, et n'hésitez pas à leur dire d'intervenir sur ce groupe de parole où nombreux sont les auditeurs d'Europe 1 pour échanger hein, sur tout ça. Et peut-être comme ce soir, il y en a beaucoup qui nous envoient des SMS au 739-21 et qui, à mon avis, vont échanger avec vous de bon cœur, vraiment. Donc, n'hésitez pas à leur communiquer tout ça et puis de nous informer de la suite des événements, Jean.
Mais je n'ai pas de compte Facebook, mais...
Mais dans, vos amis, dans les voisins, il y a obligatoirement des gens qui ont Facebook.
Oui, oui, oui.
Bon.
Sinon, je veux bien laisser mon adresse mail.
Ah bah, vous allez laisser votre adresse mail, vous ne raccrochez pas, vous allez laisser votre adresse mail à Florian. Hein, d'accord.
Et alors, puis, oui, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un juriste qui a fait une analyse très perspicace de ce que nous subissions, ma femme et moi, et qui a été publié sur Mediapart.
D'accord.
Donc, c'est Monsieur Caez, C-A-H-E-Z.
Monsieur Caez, Patrick Caez, C-H-A-E-Z, que l'on peut retrouver donc sur le site de Mediapart.
Il faut taper un couple détruit par un mandataire.
D'accord.
Et on trouvera les articles de presse et d'autres écrits, comme on a écrit au président Macron aussi, hein, le comité. On trouvera ces documents sur le site de Mediapart.
Très bien, Jean. Merci en tout cas d'avoir pris de votre temps pour nous informer de ce qui vous arrive ce soir. Croyez bien que nous serons derrière vous hein, si vous en avez besoin. Et vous n'hésitez pas à nous rappeler, à nous tenir au courant. D'accord ?
Mais oui.
Bonsoir,
oui,
Jean.
Oui, elle a été même privée de son neurologue.
Bah, elle a l'air d'être privée de tout le monde, hein, cette pauvre Françoise.
Oui, oui, oui. Je ne sais pas ce que vous pourriez faire pour elle.
Ben, ce qu'on pourrait faire pour elle, c'est au moins déjà diffuser cette information. À partir de demain, le podcast sera présent sur les podcasts d'Europe 1. À mon avis, nombreux sont ceux qui vont découvrir demain, après coup, car les podcasts de la Libre Antenne sont très écoutés. Déjà, cette démarche de vous manifester, de parler sur une grande radio comme Europe 1, fait que beaucoup plus de gens vont être au courant. Il y a Mediapart aujourd'hui qui s'est saisi de votre affaire. C'est comme ça que vous allez y arriver, Jean, à mon avis. C'est en alertant la presse, comme vous le faites là, que les choses peuvent avancer et que peut-être un magistrat se saisisse de l'affaire, vraiment.
Oui, donc je vous dis, j'appelle solennellement Maître Éric Dupont-Moretti, qui habitait à Lille autrefois. Je l'appelle solennellement à se saisir de cette affaire pour y mettre de l'ordre parce que j'ai peur que Françoise ne meure à force de tristesse et de solitude.
D'accord, Jean, l'appel est lancé. En tout cas, nous sommes là. N'hésitez pas à nous rappeler quand vous en avez envie, d'accord ?
Je vous remercie infiniment, Olivier.
Je vous en prie, Jean. Et tenez bon, courage.
Merci.
Au revoir.